Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Présence à l'écoute d'un nouveau numéro de Métropolez-vous. Vous savez que la raison d'être de cette émission est avant tout de mieux faire connaître aux citoyens ce qu'est et ce que fait Toulouse Métropole, les domaines d'intervention et les projets que mène et finance la collectivité métropolitaine sur son territoire. Un territoire qui rassemble, je le rappelle, 37 communes à ce jour. Je ne sais pas si parmi nos auditeurs, beaucoup connaissent toutes les compétences exercées par Toulouse Métropole. Certaines ont des intitulés assez transparents comme l'économie, la culture, les transports, la voirie, l'aéronautique, le tourisme ou les sports. D'autres sont moins directement lisibles, voire un peu mystérieux. Pour qui n'est pas initié à un certain jargon que d'aucuns qualifieront de technocratique, c'est le cas de la compétence prospective et contractualisation. Elle n'est pas nouvelle pourtant, mais ce n'est pas celle que l'on évoque le plus souvent auprès du grand public. Et bien justement, il m'a semblé qu'il fallait que les citoyens métropolitains aient une meilleure connaissance de cette compétence, parce qu'elle est importante pour l'avenir de notre collectivité. Que recouvre la compétence prospective et contractualisation de Toulouse Métropole, c'est le sujet de cette émission. Et le mieux placé pour nous parler de la prospective et de la contractualisation à Toulouse Métropole, c'est celui qui assume la vice-présidence de cette compétence, autrement dit Joseph Karl, qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation et qui est donc présent dans ce studio. Bonjour monsieur le vice-président et bonjour monsieur le maire, parce que je dois préciser que vous êtes également maire de Blagnac. Alors dites-moi, pour éclairer un peu notre lanterne, est-ce que vous pouvez nous donner une définition simple, accessible, des termes prospective et contractualisation, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de prospective et contractualisation à Toulouse Métropole?
Bien, bonjour d'abord Eric, bonjour à tout le monde. Oui, alors ça peut paraître un petit peu nébuleux, or la prospective, là-dedans ça veut dire se projeter. Les missions de la métropole sont des missions qui doivent permettre de faire de Toulouse une véritable capitale métropolitaine qui a sa place dans le concert français, le concert européen. Pour ça, bien sûr, des politiques au quotidien, mais il faut aussi véritablement se projeter. Ça, c'est ce qu'est la prospective, et je reviendrai un peu sur l'importance de la prospective aujourd'hui dans le monde tel qu'il est et face à la crise sanitaire. Le deuxième volet, c'est la contractualisation. L'État a mis en place ce qu'on appelle les contrats de plan État-région, le CPER pour utiliser l'acronyme. Et donc, effectivement, il y a des opérations d'importance, l'aide à des laboratoires universitaires, ou bien le financement d'équipements culturels d'importance métropolitaine, voire des opérations de mobilité importantes. Et tout cela doit figurer dans un contrat, qui est le contrat de plan État-région, c'est-à-dire que la région, elle aussi, est partie prenante. Il y a donc des discussions, des débats pour qu'on se mette d'accord avec la région pour aller vers ces contrats. Mais il y a d'autres modes de contractualisation. La contractualisation, au-delà de l'État, direct entre la région et la métropole. La contractualisation qui peut être faite avec le département, et puis la contractualisation avec des territoires, qui sont des territoires limitrophes de la métropole, comme le Gers, avec les portes de Gascogne. Donc c'est tout un dispositif de fonctionnement un petit peu invisible de la métropole, mais qui a tout son sens, parce que derrière tout cela, il y a des opérations concrètes qui sont mises en œuvre.
Eh bien, ça me paraît nettement plus clair. Je pense que ça l'est aussi pour ceux qui nous écoutent. Merci pour ces premières explications. Peut-être que nous pourrions préciser aussi le champ d'action de cette compétence. Est-ce que la prospective, la contractualisation concerne tous les domaines ou est-ce que certains sont plus concernés que d'autres?
Alors, ça concerne effectivement tous les domaines. Et aujourd'hui, on est dans une situation particulière. Le président Jean-Luc Moudin, en partenariat avec la présidente de région, Carole Delga, ont demandé à une commission d'experts de diagnostiquer ce que la crise générait sur notre territoire, et elle leur a demandé de faire des propositions d'action visant à introduire cela. Cette commission, qui était présidée par Marion Guillou et parrainée par Jean Tirole, a déposé ses conclusions et elles ont été présentées précisément à la commission prospective et contractualisation. Ça va, bien sûr, d'abord de la structuration du paysage universitaire et de l'écosystème universitaire de Toulouse. Enfin, franchement, moi je suis un universitaire très malheureux que nous n'ayons pas eu l'IDEX, que nous n'ayons pas été considérés comme territoire d'excellence en matière de recherche et en matière d'enseignement universitaire. Ça concerne l'aménagement du territoire, ça concerne bien sûr le climat et l'évolution climatique, mais ça va concerner aussi, et je l'évoquais tout à l'heure, les évolutions de la dynamique industrielle de Toulouse, l'emploi, la formation, mais ça va aussi investir le champ du tourisme, de la gastronomie, de la culture. Donc tout cela, effectivement, sont des pistes. Donc ça veut dire que la prospective, elle n'est pas univoque. Et des choses se parlent. Si nous sommes en capacité de développer du tourisme industriel, c'est peut-être parce que nous aurons inventé de nouveaux modes industriels que ben, le grand public aura envie de découvrir. Donc c'est véritablement tout cela qui est là-dessus. Alors, nous avons au niveau de la commission et au niveau de ma délégation un travail pour, en quelque sorte, tamiser un petit peu toutes ces propositions. Mais ces propositions doivent ensuite se transformer en actions opérationnelles. Et là, ben, c'est la délégation à la culture, c'est la délégation à l'économie, c'est la délégation à l'enseignement supérieur. C'est chaque délégation qui va dans son domaine
prendre le relais
pour rentrer dans le processus opérationnel.
Alors, je reviens à la contractualisation. Elle peut concerner vraiment tous les types de partenariats, publics ou privés. Il faut bien qu'on le précise.
Tout à fait, tout à fait.
Mais pas seulement avec des collectivités, avec l'université ou des communautés de communes. Ça peut être avec l'aéroport, ça peut être avec des grandes entreprises, des coopératives agricoles, éventuellement dans le domaine alimentaire.
Tout à fait. Alors, ces processus de contractualisation doivent s'inscrire dans des démarches dans lesquelles on veut avancer. Bon, vous le savez, aujourd'hui, le marché d'intérêt national est métropolitain. On peut avoir une contractualisation avec le marché d'intérêt national pour dire si on veut développer l'agriculture périurbaine, si on veut favoriser le maraîchage de proximité, les circuits courts, on peut imaginer un contrat passé entre la métropole et le marché d'intérêt national, pour donner l'exemple, mais on pourrait en avoir plusieurs dans ce domaine-là.
Alors peut-être une chose qui échappe à nos auditeurs, la contractualisation peut aussi exister entre la métropole et les communes qui la composent.
Alors, de ce point de vue, c'est plus une contractualisation maintenant parce que ça va être ce qu'on appelle le pacte de gouvernance. C'est-à-dire que la loi a introduit l'obligation de définir les modalités de relation et de fonctionnement entre les organismes de coopération intercommunale et les communes. C'est lié au fait que, notamment en milieu rural ou pour les communautés de communes, parfois les communes se sentaient totalement dépossédées. Donc le législateur a considéré qu'il fallait remettre les choses à plat et qu'il fallait donc définir les relations entre les communes et la métropole. Donc on n'a même plus besoin d'un contrat individuel cette fois-ci. Par contre, nous sommes en train de travailler, à la demande du président Jean-Luc Moudin, sur le contenu de ce pacte de gouvernance pour dire, ben voilà, la commune fait ça. Et peut-être allons-nous aller un peu plus vers des compétences de proximité sous la responsabilité communale pour laisser à la métropole des compétences de stratégie plus globale du territoire.
Alors, pour illustrer les deux champs, prospective et contractualisation, est-ce que vous pouvez donner des exemples d'actions qui ont été réalisées lors du précédent mandat ou qui sont en cours dans le mandat actuel, les actions emblématiques?
Bon, je vais prendre un exemple, puisque c'est l'actualité de la métropole aujourd'hui, sur la mise en œuvre de l'ancien contrat de plan État-Région. C'est ce qui s'est passé avec l'école vétérinaire. Donc, l'école vétérinaire s'inscrit dans un processus prospectif d'évolution des pratiques en matière de prise en charge d'un certain nombre de pathologies. Pour ça, l'école vétérinaire avait besoin de s'étendre. Donc, c'est parce qu'elle est dans cette démarche prospective, dans cette recherche d'expertise reconnue, que c'est inscrit dans le cadre du contrat de plan État-Région. Et là, ben, la métropole, la région, l'État ont permis la construction de laboratoires et d'immobilier pour que l'école vétérinaire puisse effectivement développer cette prospective. Je pourrais citer d'autres exemples, mais ça me paraît bien illustré, et puis surtout parce que nous venons dernièrement de voter au niveau du bureau de la métropole le dernier acte de ce contrat.
Voilà, un cas très pratique. Concernant la prospective encore, quels sont aujourd'hui les enjeux principaux, plutôt les critères essentiels à prendre en compte pour justement projeter, anticiper, évaluer ce que pourrait être l'avenir de la métropole dans les 5, 10, 15 ans à venir? Il y en a un qui me semble incontournable, c'est l'évolution démographique. Et comment on l'intègre?
Il y a effectivement cette évolution démographique. Alors, la prospective, elle ne se fait pas qu'au niveau de la métropole. L'évolution démographique entraîne l'aménagement du territoire. Or, en ce qui concerne l'aménagement du territoire, nous avons un syndicat mixte qui est le SMEAT, le syndicat mixte d'aménagement du territoire, qui va lui regarder en termes prospectifs comment on va être capable d'accueillir, où est-ce qu'on va accueillir, comment on va accueillir. Mais ça veut dire qu'il y a bien sûr des opérations qui vont se faire sur le territoire métropolitain. Et la question qui va se poser pour nous, c'est on accueille comment dans des logements qui sont aujourd'hui des logements à faible consommation énergétique. Comment on améliore aussi l'habitat existant? Comment on peut notamment accompagner les métropolitains, les habitants métropolitains, dans le renforcement des isolations pour générer des économies d'énergie? Donc on s'aperçoit que sur ce sujet-là, qui est le sujet de la démographie, il faut que l'on soit à la fois dans une vision très très large, qui dépasse le périmètre de la métropole, d'où l'intérêt d'avoir une réflexion au niveau du SMEAT, de ce syndicat mixte, qui dépasse les limites de la métropole, qui couvre ce qu'on appelle l'aire urbaine.
On est oui, parce que la métropole, c'est pas un ensemble fermé,
non,
évidemment.
Non, tout à fait. Et puis la métropole, il faut qu'elle fonctionne avec d'autres. Mais vous parliez justement de cette question, et peut-être demain, faudra-t-il qu'on contractualise entre la métropole et le SICOVAL, entre la métropole et le Rhin, la métropole et peut-être d'autres communautés de communes, autour de la mise en œuvre de ce qui aura été défini dans la révision du SCOT par le syndicat mixte d'aménagement.
Oui, parce qu'une des difficultés dans tout ça, ça va être de maintenir les équilibres entre zones urbanisées, espaces naturels, voire agricoles, parce que je rappelle qu'il y en a sur la métropole toulousaine, et conserver une qualité de vie, qu'on nous envie souvent, et l'attractivité économique.
Alors, c'est tout l'enjeu de la révision du SCOT, avec une volonté, la volonté, somme toute, de continuer à préserver les espaces. Vous parliez de l'agriculture, moi je parlerai du maraîchage.
Simplement, oui, pour moi, ça en fait partie.
Non, un exemple.
Tout à fait.
Quand on fait à Blagnac, nous avons ce qu'on appelle une plaine maraîchère. Cette plaine maraîchère, bon, c'est l'histoire de Blagnac, au fond, elle avait été aujourd'hui très peu cultivée, et il y a beaucoup de propriétaires. La ville de Blagnac a donc décidé d'une part, de racheter les parcelles pour implanter de nouveaux maraîchers, de jeunes maraîchers, mais à condition qu'ils fassent de la production bio. Derrière ça, c'est quoi? C'est le circuit court. Ce que l'on veut, c'est qu'à un moment, ces maraîchers viennent alimenter notre cuisine centrale, qu'ils puissent aussi alimenter le commerce de proximité, voire de la vente directe. Donc ça veut dire qu'on va préserver, et on a décidé de faire une ZAP, une zone agricole protégée, pour que ce territoire soit protégé. Et donc, ça va être tout le travail. Donc, soyons clairs, si on ne veut pas consommer la totalité des espaces et que l'on doit faire du logement, il va falloir faire du vertical. Si on fait de l'horizontal, c'est l'étalement urbain. On n'a pas forcément les capacités de transport et de mobilité qui vont avec l'étalement urbain. On met les gens dans des embouteillages, dans des durées de transport insupportables.
Parce que tout est imbriqué, évidemment.
Voilà. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant à tout ça. Et bon, ma collègue maire de Colomiers, Karine Travail, qui est en charge de le logement, réfléchit à tout ça aussi.
Alors, puisque vous en parlez, je vais m'adresser maintenant au maire plus qu'à l'élu métropolitain. Comment une ville comme Blagnac traverse-t-elle la crise sanitaire, sachant que son tissu économique est tout de même très lié à l'aéronautique?
Alors, il y a des choses qui incombent effectivement à la ville de Blagnac, et puis il y en a d'autres qui se modifient. Alors, comment on traverse ça? D'abord, en prenant en compte ce qui va se passer pour un certain nombre de Blagnacaises et de Blagnacais qui n'auraient jamais imaginé se trouver dans des situations de difficulté, voire de précarité dans lesquelles ils vont se trouver. Donc ça veut dire que nous attendons un petit peu. Nous avons déjà mis en place des actions. Hein. Nous avons mis en place des actions auprès des commerçants, auprès des artisans. Mais nous attendons la fin de l'année pour voir quel est l'impact effectif de la crise et dire comment on organise les politiques de solidarité à travers ça. Et puis, parallèlement à ça, il faut surtout ne pas renoncer. Donc il faut maintenir le marché de plein vent. Il faut maintenir, quand on le peut, et on a eu le week-end du commerce de proximité, faire cela. Bien sûr, il y a des manifestations qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire notre marché de Noël, sur lequel on avait une fréquentation tout à fait exceptionnelle. On ne peut pas générer un certain nombre d'animations. Mais il faut malgré tout qu'on soit à côté de l'activité économique le plus possible. Donc deux champs, le champ de l'aide à ceux qui vont se trouver en difficulté. Ça veut dire qu'on va revisiter nos politiques. Quand je dis revisiter, c'est pour les réinventer.
Oui, oui.
Et dire quelles sont les priorités. On va peut-être être amené à différer des projets que nous avions, parce qu'il y aura d'autres priorités. Et donc, Ça veut dire que nous allons rentrer dans le nouveau monde. Le nouveau monde, ça n'est plus gérer, c'est anticiper. Le nouveau monde, c'est gérer, c'est s'adapter. Et donc, on va essayer d'avoir une grande agilité par rapport aux problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Alors moi, je pensais beaucoup aux petits sous-traitants, et je pense qu'il y en a un certain nombre d'implantés sur votre territoire. C'est eux qui vont être les plus en danger, en tout cas dans l'immédiat. Est-ce que vous voyez venir des fermetures? Est-ce que vous pouvez les aider? Ou comment pouvez-vous les aider? Bon, jusqu'à un certain point, bien sûr.
Là, il faut, je dirais, changer d'étage. Au niveau de l'agence d'attractivité, au niveau du travail qu'on fait sur le développement économique avec Dominique Faure à la métropole, c'est là que les choses se passent. Blagnac est véritablement pas à l'échelle du problème tel qu'il est posé. En revanche, on va avoir des salariés qui habitent Blagnac qui vont être en difficulté. C'est là qu'il faut que nous soyons présents. Peut-être qu'on sera amené à dire on va exonérer les cotisations qui sont payées dans les associations pour que les gens continuent malgré tout à vivre. Que les gens ne se disent pas, ben ça y est, c'est fini pour moi. Non, il faut continuer à générer cette solidarité, à maintenir ce lien social, à dire, ben non, les choses doivent continuer à avancer. Moi, je ne veux pas, mais vraiment pas, que la crise se traduise par un renoncement. La crise, elle doit se traduire par une envie de repartir. Et puis bon, peut-être que je suis d'un naturel très optimiste, mais je crois qu'on va arriver à trouver les solutions par rapport à cette crise, et il faudra qu'on soit prêt au rebond.
Oui, parce que la difficulté, ça va être surtout de redémarrer, je suppose.
Absolument. Et moi,
c'est pour ça qu'il faudra éviter de s'arrêter, mais si on est contraint de le faire, alors, comment on démarre?
Ce qui m'inquiète le plus, si vous voulez, c'est ça. Si on regarde ce qui s'est passé en 2008 entre Boeing et Airbus, Boeing a pris la décision de supprimer les emplois. Airbus a eu cette capacité avec Powerate, avec tous ces dispositifs, de conserver son savoir-faire. Au moment du rebond, Airbus a pu rebondir beaucoup plus vite que ne l'a fait Boeing. Aujourd'hui, on va être confronté à la même question. Cette intelligence extraordinaire de notre monde aéronautique et spatial, il ne faut pas la perdre. Mais par contre, il faut s'interroger pour savoir si cette intelligence, on ne peut pas la développer dans la santé, si on ne peut pas la développer dans l'agriculture, si on ne peut pas la développer sur d'autres secteurs industriels que le secteur aéronautique et spatial. Bien sûr qu'il ne faut surtout pas abandonner le secteur aéronautique et spatial, mais il faut se poser la question de la diversification. L'intelligence artificielle, elle ne vaut pas que pour l'aéronautique ou l'espace. L'intelligence artificielle, on va la retrouver dans le monde de la santé. On va la retrouver dans le monde du textile. On va la retrouver dans le monde de l'agriculture. Comment cette extraordinaire capacité que nous avons à Toulouse de travail sur l'intelligence économique, on fait en sorte de la diffuser sur les autres domaines d'activité? Ça, c'est de la prospective.
C'est ce que j'allais dire. Tout ça, c'est de la prospective. C'est là que la prospective prend tout son sens. Et il faut bien comprendre que c'est aussi un moyen.
La santé de demain, c'est aujourd'hui qu'elle se prépare. Et on ne va pas traiter les problèmes de santé demain comme on les traite aujourd'hui. On a la chance d'avoir des gens, je vais parler par exemple de l'automatisme ou de la robotique médicale. Nous avons aujourd'hui des médecins qui, sur la robotique médicale, sont très en avance. Il ne faut pas perdre cette avance, il faut au contraire les aider, les accompagner. Et ça, ça peut être porté en termes de construction opérationnelle par des ingénieurs d'Airbus qui savent faire, d'Airbus ou de l'aéronautique en général. Je dis Airbus parce qu'on fait un peu l'amalgame entre aéronautique et Airbus. Mais voilà, on va l'avoir sur l'hydrogène, on va l'avoir sur tous les champs. Et je suis persuadé que, bien sûr, on va sortir plus grand de cette crise.
Et puis, il y a de la ressource quand même dans la métropole toulousaine.
Mais bien sûr, moi je suis optimiste par rapport à ça. Et d'ailleurs, le rapport Guillou, qu'est-ce qu'il nous dit? La première des choses, c'est que vous avez un potentiel tout à fait exceptionnel. Ce potentiel, jusqu'à présent, vous ne l'avez pas forcément utilisé. Soyons clairs, on ne l'a pas utilisé. Pourquoi? La dynamique aéronautique était telle. Le souci d'Airbus était de livrer suffisamment d'avions par rapport aux commandes qu'il avait. Alors, quand vous avez des commandes qui sont là, c'est vrai que la priorité, c'est de produire ces avions. Ce n'est pas forcément de s'interroger sur ce qu'on pourrait faire demain. Aujourd'hui, la crise, finalement, est un formidable accélérateur de diversification pour notre territoire.
Et c'est là qu'il faudra se réinventer, pour reprendre le terme que nous avons utilisé tout à l'heure. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il me reste à vous remercier, Joseph Carle, d'y avoir participé et nous avoir mieux fait connaître la compétence prospective et contractualisation, celle dont vous avez la vice-présidence à Toulouse Métropole. Je rappelle que vous pouvez consulter le site web de Toulouse Métropole pour avoir tous les renseignements que vous souhaitez sur les compétences exercées par la collectivité métropolitaine, www.toulouse-métropole.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous. Métropole et vous.
Métropolez-vous, Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.